France Inter.
Figure majeure du monde de l'art contemporain et fondateur de la galerie qui porte son nom, Emmanuel Perrotin s'imaginait scénariste lorsqu'il quitta l'école sans s'encombrer de diplôme vers l'âge de 17 ans. La mort précoce de son frère le marque vivement et il enchaîne les petits boulots, puis se fait embaucher comme assistant dans une galerie. À l'âge de 21 ans, il transforme son appartement de la rue de Turbigo à Paris en galerie et est le premier à exposer Damien Hirst. En 92, il ouvre son propre lieu et y présente notamment Maurizio Cattelan et Takashi Murakami, dont c'est alors la première exposition hors du Japon. Les deux artistes sont à l'époque méconnus. Suivront plusieurs déménagements et des ouvertures de galeries sur différents continents. Ce soir, nous évoquerons donc le parcours de notre invité, les artistes qu'il a donné à voir et ceux qu'il affectionne. Il sera notamment question de Jean-Michel Autoniel, Claire Tabouret, Jean-Marie Apriou, Chen Fei, JR, Pierre Soulages, Bernard Venet, Sophie Cal, Laurent Grasso ou Wim Delvoye. Nous dirons aussi un mot des expositions à venir, comme celle des gravures de l'artiste américaine Katia Saint-Hilaire. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Emmanuel Perrotin.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
Un concert de Mathieu Chédid avec toute la bande des Maliens, qui était incroyable, à Bercy.
C'est très important la musique pour vous, vous avez organisé beaucoup de concerts et vous avez fait danser les gens, ce qui est rare pour un galeriste.
Alors, je ne sais pas si c'est rare pour les galeristes, mais j'ai effectivement beaucoup d'affection pour ça. Comme je n'avais pas les moyens de tout faire comme je voulais, j'organisais des dîners pour les clients, et souvent qui étaient suivis par une fête où là, beaucoup de mes amis pouvaient venir se mêler aux clients pour participer à une fête. Et c'est très important à mes yeux qu'on fasse des choses non pas que pour vendre des œuvres d'art, mais aussi pour participer à la vie culturelle. Où qu'on soit, on le fait lors des foires, lors des vernissages, et on le fait pas tout le temps évidemment, mais avec toutes les années on a organisé un très grand nombre de concerts.
Est-ce que vous vous considérez comme fêtard ?
Oh, je suis plus depuis très longtemps, je l'eus été, mais je buvais pas, donc je pouvais sortir jusqu'à très tard et travailler le lendemain matin.
Ah bon, c'est drôle de dire ça, parce que normalement c'est l'inverse, on boit donc on fait la fête, et quand on arrête de boire on la fait moins.
Non, mais régulièrement le lendemain j'apprenais par mes amis que dès le moment où j'étais parti, les choses avaient pris une tournure fantastique, que c'était incroyable, mais j'ai jamais connu ces moments-là. Voilà, mais j'aimais bien la première partie de soirée.
Pensez-vous que l'amusement ait encore sa place au XXIe siècle qui semble si grave ?
Je pense que les jeunes qui n'ont pas connu autre chose que ce qu'ils ont connu maintenant ne se laissent pas encombrer par tous les faits divers, toutes les horreurs qu'on vit en ce moment, qui arrivent à un tel point qu'on finit par se dire, bon, bah, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut changer à tout ça ? Donc, je pense que ça ne doit pas altérer tellement, non. C'est peut-être plus toutes les régulations, toutes les règles qui font que beaucoup de boîtes de nuit ferment, que beaucoup de lieux de nuit ne peuvent pas survivre à toutes ces règles. Et en même temps, on nous a rappelé récemment que les règles sont très importantes, donc pour ne pas finir dans un drame absolu.
Et l'amusement, pas uniquement dans la fête, mais l'amusement en général, puisque vous faites partie du monde de l'art, et alors on ne s'amuse pas toujours dans le monde de l'art, mais il y a aussi, justement dans l'art contemporain, parfois un aspect ludique.
Oui, j'ai une programmation très éclectique, avec des artistes qui ont des profils très différents. Certains très taiseux, certains ont un travail très difficile d'accès et compliqué, et d'autres qui peuvent intéresser le grand public, qui ont permis d'ailleurs de faire des ponts avec des gens qui ne s'intéressent pas du tout à l'art contemporain. Évidemment, on pense tout de suite à Maurizio Cattelan quand, par exemple, j'ai présenté cette banane sur mon stand à Miami.
Scotché.
Un artiste comme Murakami qui à travers ses collaborations, touche un très très large public.
Alors, vous avez été surnommé par la presse outre-Atlantique le French Gagosian, en référence au galeriste américain Larry Gagosian. Et lors de l'ouverture de votre galerie à Shanghai en 2018, vous avez dit « J'ai 23 ans de moins que le tout-puissant Larry Gagosian, on verra là où j'en serai à son âge ». Alors, c'est pas encore le cas, mais comment cela évolue-t-il selon vous ?
J'ai aucune ambition d'égaler Larry Gagosian. C'est un génie, c'est quelqu'un qui a fait toute sa vie sa galerie. Il est toujours au devant de la scène pour sa galerie. C'est lui qui fait les plus gros deals. Moi, j'ai choisi une version différente de faire une galerie plus collective, une galerie avec, en collaboration avec mes assistants, avec mes vendeurs, avec tous les gens qui travaillent à la galerie. Et on n'est pas positionné pour pouvoir être en rivalité avec lui. C'est des effets de journalistes qui ont dit ça. Moi, je me reconnais pas du tout dans cette appellation. Et d'ailleurs, j'espère que le milieu de l'art évoluera différemment. On n'a pas forcément envie d'être la plus grosse galerie du monde. C'est pas forcément ça qui m'anime.
Alors, en parlant d'appellation et d'évolution, justement, dans une interview, vous donniez une définition de l'art contemporain en précisant que l'appellation pouvait ne rien vouloir dire, puisque finalement, passé un certain temps, ce qui était contemporain ne l'était plus, et le Centre Pompidou pouvait devenir peut-être le musée du XXe siècle pour laisser place à un musée du XXIe. Ça m'a fait penser à Chérie FM, parce que... Quand j'étais petite, non, vous ne me faites pas penser à Chérie FM, mais vous savez, quand j'étais petite, c'était les tubes qu'écoutaient mes parents, comme beaucoup de gens. Et maintenant, c'est terrible, ça donne un énorme coup de vieux. Ce sont les tubes qui sont sortis quand j'étais petite, qui passent sur Chérie FM.
Eh oui.
Et donc, qu'est-ce que c'est que l'art contemporain ?
Ben, d'autant qu'une galerie comme la mienne, qui a vraiment une appellation art contemporain, représente une dizaine d'estates d'artistes plus modernes que contemporains. Bien, l'un des paradoxes aussi que j'avais, c'est que j'ai commencé à travailler avec Pierre Soulages quand il avait 95 ans, et j'ai travaillé jusqu'à ses 102 ans, j'ai réussi à organiser 3 expositions dans le monde avec lui. Et parce qu'il était vivant, il était considéré comme contemporain, mais il était évidemment le contemporain des artistes modernes. Donc évidemment que nos galeries ont évolué. Avant, il y avait une beaucoup plus grosse démarcation entre une galerie d'art contemporain et une galerie moderne. Maintenant, tout se mélange, on a des profils caméléons.
La 20e heure, Eva Bester sur France Inter.
Emmanuel Perrotin, vous naissez à Montreuil. Quels souvenirs gardez-vous de votre enfance dans les Yvelines, à l'Étang-la-Ville, je crois ?
Oui, alors je suis né à Montreuil, puisque ma maman avait l'habitude de cette clinique. Je suis né le 6 mai 68.
C'est une habituée de la clinique.
Voilà, j'étais le 4e enfant. Donc elle a fait Boulogne-Billancourt, Montreuil, pour le 6 mai 68, donc au milieu des barricades, pour accoucher. Et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 6 ans à Boulogne-Billancourt, et ensuite... à l'Étang-la-Ville. L'Étang-la-Ville, c'est cette gare de Saint-Nom-la-Bretèche qui est un terminus à partir de Saint-Lazare. Et c'est au milieu de la forêt. Et c'est un petit village très sympathique, mais qui me permettait d'aller à Paris très jeune. À partir de mes 15 ans, j'allais à Paris très régulièrement.
Alors vos parents n'étaient pas amateurs d'art contemporain, mais ils vous emmenaient souvent au musée.
Oui, on faisait des vacances en camping-car et on a visité toute l'Europe, vraiment de la Suède à Athènes. Donc on visite vraiment le pays quand on est en camping-car, puisqu'on passe d'une ville à l'autre. Et alors, il ne me faisait pas visiter des musées d'art contemporain. On faisait le plus contemporain, c'était Picasso. Mais voilà, et mon jeu d'enfant pour passer le temps, c'était d'essayer de reconnaître les tableaux à distance et d'aller lire sur le cartel si je reconnaissais l'artiste ou non.
Et bien alors justement, je crois qu'il y a un cartel qui a confirmé une de vos intuitions et c'était une de vos premières émotions artistiques.
Je crois que vous avez bien préparé.
Bah évidemment, que puis-je faire d'autre ? Ma vie est dédiée aux invités et aux auditeurs. C'était Henri Michaud.
Oui.
Et je vous laisse raconter.
Bah c'est une encre abstraite d'Henri Michaud et puis... Je vois que dans le bouillonnement du dessin apparaissait comme une guerre. Et je lis le titre et je vois que c'est marqué « La bataille ». Et j'étais fasciné, j'étais très jeune, hein, je devais avoir 15 ou 16 ans, et j'étais fasciné par l'idée que j'avais pu comprendre à travers ce dessin très abstrait l'intention de l'artiste. Et voilà, c'est peut-être pas un acte fondateur, mais c'est vrai que c'était un souvenir marquant de cette époque.
Est-ce que ça vous arrive de ne rien comprendre à une œuvre comme beaucoup d'entre nous ?
Mais ça m'arrive tout le temps. Et ça m'arrive tout le temps, ça m'arrive même de plus en plus, parce que je prends pas forcément le temps aussi d'aller chercher tous les éléments qui m'aideraient à comprendre. C'est-à-dire que on finit par être un peu blasé aussi, vous connaîtrez ça un jour. Vous préparerez moins bien vos émissions.
Et, pas sûr, ça fait longtemps déjà.
Mais c'est vrai que on est toujours surpris du manque d'effort que font les gens pour essayer de s'intéresser à quelque chose, que souvent l'art contemporain est jugé juste sur sa couverture. C'est comme si sur un livre, on le jugeait sur son titre ou sur le graphisme de la couverture. Nous, c'est un milieu qui ne touche qui ne touche malheureusement assez peu le grand public, bien que ce soit une activité gratuite. Hein, vous pouvez visiter les galeries gratuitement et sans réservation.
Mais c'est intimidant.
C'est intimidant, on ne le sait pas pourquoi non plus, puisqu'il n'y a pas de buzzer. Vous pouvez rentrer, personne ne vous demandera rien. C'est peut-être. Alors ça, on nous dit aussi que ça peut être un problème, qu'on ne nous demande rien, mais bon. Mais voilà, et bizarrement, les gens qui ne s'intéressent pas à ça se permettent des fois de juger globalement tout ce domaine, comme si on pouvait juger la musique à travers un type de musique. C'est-à-dire que si vous voyez un concert de hard rock et que vous disiez la musique c'est affreux, c'est peut-être simplement parce que vous n'aimez pas le hard rock. Mais malheureusement, j'ai constaté que c'était vraiment notre domaine qui était jugé globalement, comme si on pouvait ne pas aimer quoi que ce soit de l'art contemporain. Alors que très certainement, si vous faisiez l'effort de faire le tour des galeries, il y aurait certaines propositions qui vous plairaient. Il y en a certaines que vous ne comprendriez pas, et c'est pas grave. On ne vous demande pas, par exemple, de juger un poète chinois si vous ne parlez pas chinois. En même temps, si vous avez la traduction, ça peut vous aider aussi à vous y intéresser. Mais il y a certaines propositions qui n'ont effectivement aucun intérêt. Il ne faut pas non plus idolâtrer tout l'art contemporain sous prétexte qu'il faudrait savoir. C'est ni l'un ni l'autre. Il faut être ouvert.
Est-ce que vous auriez une recommandation de lecture pour les gens qui ont des lacunes dans l'art contemporain et qui aimeraient s'y intéresser, quelque chose de très accessible?
Oui, alors, le livre qui m'avait un peu formé jeune assistant, c'était L'art contemporain en France de Catherine Millet. Voilà.
Qu'on a d'ailleurs reçu dans l'émission cette année. Et alors justement, du 21 au 25 janvier, le CNL organise des événements gratuits dans toute la France et à l'étranger à l'occasion des Nuits de la Lecture. Et afin de nous associer à l'événement, on propose à nos invités une lecture toute cette semaine. Et alors, Emmanuel Perrotin, vous n'allez pas le croire parce qu'on l'avait prévu, mais voici justement un extrait de ce livre lu par Catherine Millet elle-même, L'art contemporain en France.
Il y a eu le drame de Van Gogh et l'isolement de Cézanne, les provocations futuristes et les farces dadaïstes. À la fin du 19e siècle et dans les premières décennies du nôtre, l'art moderne est né par effraction, dans une convulsion douloureuse, une rage solitaire, à moins que ce ne fût dans un tohu-bohu d'injures et de moqueries. Ce moment, en tout cas, a laissé dans la conscience populaire, comme dans le récit des historiens, la trace d'événements spectaculaires. Georges Bataille n'a-t-il pas daté la naissance de l'art moderne du grand éclat de rire qui accueillit l'Olympia de Manet? Une société conservatrice et des artistes révolutionnaires se sont fait la guerre, et cette guerre nous a été racontée sur le ton d'une épopée. Dans la seconde moitié de ce siècle, et plus exactement dans le courant des années 60, alors que l'expansion économique aidait la société occidentale à sortir définitivement de l'après-guerre, l'art moderne connut un second souffle. Mais quel que fût le mérite et l'enthousiasme de ses protagonistes, ceux-ci ne pouvaient que marcher dans les pas des pionniers. Le monde, qui avait été bouleversé par les conséquences politiques de la guerre, était à nouveau ébranlé par les valeurs des nouvelles générations, celles qui, justement, avaient grandi après la guerre. La résistance aux formes nouvelles n'était plus aussi ferme. La famille sociale commençait à s'habituer au vilain petit canard qu'était l'art moderne, déjà vieux de plus d'un demi-siècle, et découvrait qu'il pouvait avoir, lui aussi, une tradition. Un livre du critique américain Harold Rosenberg, traduit en 1962 en français, s'intitulait « La tradition du nouveau ». On ne se fit plus la guerre, on livra un match, dans le respect de certaines règles et la conscience de où s'arrêter pour ne pas aller trop loin.
Je reviens un peu à votre adolescence, si vous me le permettez. Vous arrêtez votre scolarité au lycée autogéré de Paris à l'âge de 17 ans, sans brevet ni bac. Est-ce que cela coïncide avec le suicide de votre frère et quel rapport entretenez-vous à vos morts ?
Oui, d'une certaine manière... J'ai pu faire le lycée autogéré de Paris parce que mon frère avait fait partie d'une préfiguration de ce projet très socialiste qui permettait de faire une école où les gens qui étaient un peu, entre guillemets, perdus pour la scolarité habituelle étaient requalifiés. Ça permettait de travailler en même temps que sa scolarité, ça permettait de ne pas avoir d'obligation de présence, de choisir ses professeurs, de choisir énormément de choses. J'ai beaucoup aimé cette scolarité très atypique. J'ai pas pu continuer, non pas à cause du suicide de mon frère, mais plutôt il y a eu un concours de circonstances qui a fait que le directeur de la préfiguration de l'école de mon frère s'est suicidé lui-même. Et pendant que j'étais en scolarité, qui était le prof de philo de mon frère et qui était mon prof de philo et qui s'est suicidé pendant la scolarité. Je ne dis pas que c'est ça qui m'a poussé, mais il y a eu une certaine accumulation. Et puis, je faisais plein de petits boulots en parallèle de ma scolarité. Et, vidéos de mariage, je distribuais des courriers, je travaillais à la banque dans laquelle mon père était employé. J'ai vraiment accumulé beaucoup de choses. Et d'ailleurs, certains de ces boulots ont été très importants dans ma carrière. J'ai été opérateur saisiste pour un ingénieur qui faisait des diaporamas interactifs pour le musée d'Orsay, le musée de la Villette. Alors vous disiez par exemple Claude Monet et vous aviez 10 diapos de Claude Monet. Ça paraît rien maintenant, mais à l'époque, c'était impressionnant. Et grâce à ça, j'ai créé, dès mes 18 ans, un logiciel de gestion de galerie.
Que vous utilisez toujours, je crois.
Alors,
avec
j'utilise toujours
un emploi
qui ressemble plus grand-chose de ce qu'il était à l'époque. Maintenant, j'ai 10 programmeurs plein temps. Mais j'ai fait ça, effectivement, pendant des années, la nuit, puisque le jour, je m'occupais de ma galerie. Voilà.
Et si vous me permettez d'insister juste sur cette question, parce que c'est une question que je trouve importante, que je pose à beaucoup d'invités. Quel rapport entretenez-vous à vos morts ? Parce qu'on a tous un rapport différent à ces morts.
Mes parents, mes grands-parents sont morts. Mon frère est mort. Mes grandes sœurs sont toujours vivantes. Je les salue à l'occasion. J'ai été sollicité 2 fois, pour ma mère et pour mon père, pour savoir s'il fallait les garder en vie ou non. Ce qui était quand même très particulier. C'est la première fois que j'évoque ça, mais c'est vous aussi qui me posez la question. Vous recevez un appel, j'étais normalement 4e dans la liste des appels, et c'est moi qu'on appelle pour ma mère. Alors j'ai le réflexe de dire, oui, envoyer une ambulance. Et puis après, ma sœur, qui était médecin, me dit, mais tu as répondu quoi ? Je dis, d'envoyer une ambulance. Elle me dit, rappelle ! Et explique que non. Parce que je n'avais pas vu ma mère depuis 2 ans, qui avait un grave Alzheimer, qui avait même plus la notion des mots. Et effectivement, quand je l'ai découvert avant de mourir, il valait mieux que ce soit fini et pas continuer un acharnement. Et voilà. Et la même chose avec mon père, sauf que c'est allé beaucoup plus vite, parce que ma mère était malade pendant plus de 20 ans. Et mon père est tombé un jour et 3 jours après, il respirait à peine et il nous a demandé lui-même de mourir. Mais c'est étonnant d'avoir été confronté à cette situation. De 2 fois, on vous demande si on va faire de l'acharnement thérapeutique ou non. Alors, d'une certaine manière, j'ai pu voir mes 2 parents avant qu'ils meurent. Et voilà, mais je n'étais pas très famille-famille. J'ai quitté ma famille dès l'âge de 17 ans. Et voilà, alors ça peut paraître horrible à des gens de dire « j'ai pas vu ma mère pendant 2 ans », mais il fallait voir aussi dans quel état ça vous plaçait d'aller la voir dans l'état dans lequel elle était. Et je veux dire que mon père a été un héros d'y aller 3 fois par semaine dans cette condition-là.
Et alors là, je m'éloigne de la famille, bien qu'elle en soit souvent la cause première, mais quel est votre rapport à la mélancolie ?
Elle est assez agréable.
Ah bon ?
Oui, parce que si vous y pensez, par exemple, une musique qui me touche énormément est très mélancolique la plupart du temps. Bien sûr, je vais vous citer plein de groupes qui sont très, très heureux, mais quand même, moi j'aimais beaucoup la New Wave. La New Wave est très mélancolique. Il y a beaucoup de musique que j'écoute où clairement la tristesse domine. Et se réfugier dans la tristesse des autres nous rassure sur notre propre situation. On dit bien qu'il faut être malade pour se rendre compte à quel point c'est important d'être en bonne santé. Finalement, beaucoup de films sont très malheureux, sont très tristes, et peuvent nous ramener en reflet le fait que finalement ça va pas si mal pour nous.
My work is consist in 2 parts.
Il y a 2 aspects à mon travail. D'un côté, le corps de l'artiste, et de l'autre, le corps public. Le corps de l'artiste consiste en la réalisation d'une performance devant un public. Le corps public consiste à construire une performance à partir d'objets et d'instructions que je mets à la disposition du public. En 30 ans d'activité artistique, j'ai souvent pensé qu'il n'est pas suffisant que l'artiste fasse sa performance devant un public dans le rôle passif d'observateur. Je crois que c'est important d'être personnellement engagé dans des processus de transformation. Et pour comprendre ces processus de transformation, il faut en avoir eu l'expérience personnelle. Aussi, j'ai créé ces objets que j'appelle objets transitoires. Ce ne sont pas des sculptures, ils ne sont pas destinés à demeurer là pour toujours. Mais ils sont bien plutôt éphémères, simplement destinés à être utilisés par le public.
C'est l'artiste Marina Abramović qu'on entend sur France Culture en 2001. Emmanuel Perrotin, on continue de balayer votre parcours. À 17 ans, vous êtes embauché comme assistant par le galeriste Charles Cartwright, lui-même âgé de 23 ans seulement. Vous ne parlez pas vraiment anglais, vous n'êtes pas spécialement passionné par l'art, mais vous gérez assez vite la galerie où on expose notamment Marina Abramović et Georges Condo.
Oui, alors Georges Condo, on n'a fait qu'une expo de groupe, mais il se trouve qu'il m'a demandé de lui chercher son appartement à Paris, donc j'avais trouvé son appartement à l'époque. Et Marina Abramović, oui, c'était un souvenir marquant. Je me suis retrouvé à organiser un déménagement chez elle, donc j'ai dormi chez elle.
Vous
à
étiez dans l'immobilier,
quand
en fait.
Quand j'étais très jeune. Oui, non, je rendais beaucoup de services. En fait, il faut faire beaucoup plus que ce qu'on vous demande, et ça permet ensuite de créer des relations... bien avec tout le monde, c'est important. Si effectivement des jeunes qui commencent leur carrière professionnelle nous entendent, se sentir humilié parce qu'on vous fait faire des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'était au départ votre métier, c'est en fait une grosse erreur, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut montrer évidemment sa dévotion.
Alors, ayant été stagiaire pendant très longtemps, je vous rejoins.
Revenons à la halle Tony Garnier avec le dernier mercenaire, ou le dernier gangster, ou le dernier romantique, Philippe Perrin. Qu'est-ce que vous pensez de la formule de Jean Le Gac ?
Évidemment, ça m'amuse un peu, parce que quand j'entends un type comme ça qui dit qu'il est un peu un mercenaire et quand je vois ce qu'il fait, moi, ça me choque un petit peu, quoi. Mais moi, je me vois un peu comme un mercenaire et j'ai l'impression de montrer un peu des formes d'un mercenaire, quoi. Donc là, il y a un petit décalage.
Alors, comment vous avez réalisé votre pièce, votre BMW, là ?
J'ai juste idée un soir qui me plaisait bien, comme ça. De faire un hommage à Mesrine. Ben, évidemment, Raspail et Pratt ont trouvé ça très bien, donc ils sont très bien occupés de réaliser tout ça. Et puis voilà, il y a un artificier qui est venu, un type assez étrange, qui est venu aligner des balles dans un pare-brise, selon mes indications. Puis on a placé cette voiture sur ce sol qu'on n'a pas repeint, et on dirait une bagnole un peu abandonnée dans ce bout de parking, à côté duquel on a placé le dossier de presse de l'époque, qui devient donc le dossier de presse un peu de la pièce, et qui est un tas de photocopes, un tas de copies de une de cette époque-là, et qui est placé comme un peu des caisses de munitions éventrées, comme ça, des caisses d'armes.
Vous l'avez reconnu tout de suite, Emmanuel Perrotin, c'est l'artiste et boxeur Philippe Perrin au micro de Jean Dave sur France Culture en 91. Et c'était pour introduire le fait qu'à 21 ans, vous ouvrez votre première galerie, rue de Turbigot, dans votre appartement, et donc vous cachez votre matelas dès qu'un client arrive, et la première exposition, si je ne m'abuse, était consacré à Philippe Perrin.
Alors effectivement, vous avez fait de l'archéologie dans ma carrière. Philippe Perrin, je dois le remercier parce qu'il m'a introduit au travail d'un poète boxeur neveu d'Oscar Wilde qui s'appelait Arthur Cravan. Et Arthur Cravan...
Qui s'est suicidé.
On ne sait pas. Il a été perdu dans le golfe du Mexique. On ne sait pas s'il s'est suicidé parce qu'il a en tout cas disparu. Mais... et Arthur Cravan est un personnage extraordinaire qui mérite un film, des livres incroyables sur lui. Et Philippe Perrin, oui, ça a été une aventure très rapide. Ça fait partie de ces artistes qui m'ont quitté pour de plus belles galeries que moi au tout début.
Comme Damien Hirst.
Oh, Damien Hirst, il m'a pas vraiment quitté. Là, j'avais vraiment carrément pas les moyens de continuer. C'était 6 mois après la première expo que j'ai organisée pour lui.
Il a changé de pays, tout simplement.
Il a produit, Charles Saatchi, le grand publiciste anglais, a produit pour lui une pièce qui était avec un requin dans du formol. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu une star mondiale. Et honnêtement, il n'y a aucun regret à avoir. Avant l'exposition de Philippe Perrin, la première activité que j'ai faite sans espace, c'était pour un groupe d'artistes qui s'appelait Philippe Areno, Dominique Gonzalez-Foster, Bernard Joesten et Pierre Joseph. Et ça a été très formateur, très... J'ai beaucoup appris, et deux d'entre eux sont restés très connus depuis.
Vous dites qu'on vous reproche de travailler avec des artistes commerciaux, mais vous dites aussi qu'il fallait les trouver, Hirst et Murakami.
Oui, qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un de commercial ? Si c'est quelqu'un qui a réussi à obtenir l'intérêt du monde entier, je signe immédiatement ma culpabilité. Il se trouve que ces deux artistes que vous citez, ou ce soit Maurizio Cattelan ou Pareno ou d'autres, étaient totalement inconnus quand j'ai commencé à travailler avec eux. Donc ce procès est injuste. Après, Murakami, je pense qu'il y a 30 ans, on me disait « oui, on en reparlera dans 20 ans ». de la qualité de leur travail, j'ai l'impression que ça tient le coup, qu'on en parle toujours, qu'ils semblent être exposés dans énormément de musées dans le monde, et que, bien sûr, le succès en France n'est jamais vraiment apprécié, et qu'il faut évidemment critiquer. Mais beaucoup de ces artistes ont été reconnus différemment, et les gens ont pris un peu plus de temps à comprendre ce qui se passait derrière. Je pense que tout va bien, je n'ai pas à rougir de les avoir faits.
Tout à l'heure, on parlait de la notion d'amusement. Est-ce que vous pouvez nous parler d'Hérotin, le vrai lapin de Maurizio Cattelan ? C'était en 95, et je crois que vous portiez un déguisement.
Ah oui, oui, vous croyez bien. Donc j'ai commencé à travailler avec lui en 92, et en 95, il me demande de porter un costume en rose, réalisé par les studios de Cinecittà en Italie, qui représente un lapin, mais un lapin en forme de phallus. Donc, il faut que je le porte pendant 6 semaines de l'exposition. Et je dois payer un dessinateur, parce que Maurizio Cattelan ne fait pas ses dessins lui-même. Donc, je paye un dessinateur qui plaisait beaucoup à Maurizio dans son enfance, pour faire une bande dessinée sur les aventures de Hérotin, le vrai lapin. Donc, Héros, Hérotomane.
Et puis, Hérotin, Pérotin.
Voilà. Et puis, dès le premier article qu'il va faire avec Art Press, la jeune journaliste va prendre pour monnaie courante, enfin pour
argent comptant.
Pour argent comptant, voilà. Les affirmations de Maurizio sur ma vie personnelle et qui va être reprise ensuite d'article en article.
Et ça nous change la vie. Il a raconté n'importe quoi.
Oh ben, c'est-à-dire que c'est là où c'est pas tout à fait
ça,
n'importe
quoi,
courant, c'est que
quand
vous ouvrez votre entreprise à 21 ans et que les gens voient la vie que vous avez en tant que chef d'entreprise, vous voyez. Forcément, ça donne le sentiment qu'il y a un décalage entre... Alors que j'avais juste la vie d'un jeune adulte, ce qui était tout à fait normal, mais le gros problème, c'était plutôt d'être chef d'entreprise si jeune. Et comme Maurizio n'était pas très sûr de lui à l'époque, je pense que ça l'amusait beaucoup. Mais là où le projet était intéressant, au-delà de me rendre ridicule, c'était de montrer le rôle très important du galeriste dans la production des œuvres. On peut accepter ou refuser de produire une œuvre. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Et combien d'œuvres n'ont peut-être pas existé, qui auraient dû exister, si le galeriste avait eu le courage de les produire. Et ça, on n'en parle jamais. Et évidemment qu'on pense qu'un galeriste, c'est juste accrocher des tableaux au mur, mais dans certaines catégories d'artistes, on a un rôle très important.
Et bien ça, justement, on va rentrer en détail dans le sujet.
France Inter. La 20e heure, Eva Bester.
Emmanuel Pérotin, vous êtes considéré dans les classements officiels de la presse comme l'un des 5 plus grands galeristes du monde. Quand vous avez commencé, vous n'imaginiez pas du tout devenir une marque, puisque maintenant, il y a même des anglo-saxons qui disent « Pérotin ». Et ils ne savent pas que c'est vous. Et justement, je voudrais qu'on parle de votre modèle économique qui est assez singulier. Vous employez environ 160-180 personnes et vous produisez les œuvres des artistes que vous défendez. Et vous faites même de vos artistes des actionnaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Vous avez raison. Je vais citer d'ailleurs un artiste que je ne cite plus depuis très longtemps parce que je ne travaille plus avec lui depuis très longtemps, mais qui a été très très bénéfique dans ma carrière, qui s'appelait Guy Limon, qui était un artiste dont j'ai beaucoup d'affection, pour qui j'ai beaucoup d'affection. Je vendais ses œuvres très bien. Et je lui demandais s'il était d'accord pour qu'on garde l'argent que je devais lui verser pour pouvoir payer de refaire une autre foire à l'étranger, de pouvoir faire un autre projet d'exposition. Et il m'accompagnait dans ces foires et on réinvestissait un peu comme des joueurs au casino. Mais je le faisais avec la connaissance de l'artiste. L'artiste ne prenait pas le risque sans connaissance de cause. Et ça a été très, très bénéfique pour la galerie. J'ai osé faire des foires dès 1993, j'avais 25 ans. J'ai fait la foire au Japon, j'en ai fait une à New York, une à Bâle. Très, très tôt, je me suis porté vers l'étranger. J'ai pris énormément de risques pour ça. Et Guy Limon a pris beaucoup de risques aussi avec moi. Et ça a été payant pour lui et moi.
Et vous réinjectez toujours vos gains dans la galerie et vous donnez toujours une partie des bénéfices des commissions de vente des œuvres à vos employés ?
Oui, ça c'est très important. Évidemment que la plupart des galeries versent des commissions aux vendeurs des galeries. Là où j'ai amélioré le système, c'est que j'ai inventé une part de commission qui est versée aux assistants en charge des artistes. Je ne voulais pas qu'il y ait une aristocratie des vendeurs et que les autres se fassent marcher dessus. Et c'est très bénéfique parce que la galerie fonctionne vraiment en conjonction, tout le monde dans la même direction, et ça me semble très important.
Le jour où vous avez renoncé à la peinture, est-ce que vous avez cru que la peinture était morte ?
Non. D'abord, je n'ai pas renoncé. Vous savez, si j'ai une idée demain, je la ferai. Je n'ai pas fait de vœux du tout, d'aucune sorte. Simplement, j'ai arrêté parce que je n'avais plus rien à dire pour le moment. Je n'avais pas d'idée. Les idées ne viennent pas si facilement que ça. Parce que comme moi, je n'ai pas travaillé avec l'idée de faire une chose tous les matins, à 8 heures, me mettre où je fallais. Par conséquent, je n'ai envie de travailler que lorsque quelque chose me touche d'une façon ou de l'autre. Et alors, je veux trouver une façon d'exprimer cette idée. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas eu depuis longtemps, et c'est tout, c'est ce que je peux dire. Mais je n'ai pas fait de vœu du tout de ne pas faire de peinture.
C'est Marcel Duchamp qu'on entend en 66 sur la RTBF, interviewé par Jean-Antoine. Emmanuel Perrotin, vous vous êtes mis à collectionner assez tard, quand vous avez eu les moyens, en majorité les artistes de votre écurie et quelques artistes historiques comme Duchamp ou Joseph Beuys.
Oui, ouais. Marcel Duchamp... évidemment, c'est une figure très importante et c'était comme un rêve de posséder une œuvre de lui. D'autant que c'est un artiste qui n'est pas très cher par rapport à l'importance qu'il a historique. Joseph Beuys, c'était aussi pour jouer avec une œuvre de Maurizio Cattelan qui fonctionnait en référence à cette œuvre de Joseph Beuys. Et c'est assez drôle d'avoir les deux ensemble.
Comment vous décidez de l'équilibre entre les vivants et les morts que vous représentez ? Parce que vous avez aussi Hans Hartung dans votre catalogue.
Oui, on a Hans Hartung, il y en a Eva Bergmann qui est l'épouse d'Hans Hartung, on a beaucoup d'artistes comme ça, mais c'est un plaisir aussi de pouvoir représenter des artistes dont la stratégie n'est pas du tout la même. Quand vous travaillez avec un artiste vivant, évidemment que vous êtes très très à l'écoute de ce que lui souhaite, vous êtes évidemment à l'écoute de ce que la famille veut pour ces artistes déjà morts, mais ils sont aussi quand même très à l'écoute de ce que vous pouvez penser qu'il faut faire. Et puis, vous travaillez avec un nombre d'œuvres qui s'est terminé. Il n'y en aura pas plus. Donc, on sait exactement ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire avec ces œuvres-là. Donc, c'est des stratégies très différentes et c'est un plaisir, évidemment, d'essayer de se réinventer à travers ça, de changer de pratique. On a commencé il y a maintenant assez longtemps, mais c'était avec Hans Hartung, on a eu vraiment de très bonnes idées et ça fonctionne très très bien. Et d'ailleurs, le directeur de la fondation Hans Hartung...
Thomas Schlesser,
qui est un type formidable. J'ai une directrice qui est avec lui actuellement, là, cet après-midi. Et c'est le garçon qui a écrit ce livre à succès, un best-seller colossal, Dans les yeux de Mona, c'est ça.
Vous vous sentez comment face à vos œuvres ?
Je déteste mes œuvres. Un peu moins maintenant, mais avant, je ne pouvais pas les voir.
Mais vous aimez bien jouer avec votre image, on dirait.
Ouais, c'est vrai. J'ai eu plusieurs périodes de moi. Je n'ai pas beaucoup de moi, mais je pense que j'ai deux facettes. J'aime l'idée qu'on puisse être une chose et son contraire.
Vous n'aimez pas vous définir comme un artiste, je crois.
Non. En fait, maintenant oui, parce que ça me facilite la vie, mais bon...
Comment est-ce que vous pourriez vous définir ?
Je suis quelqu'un de curieux. J'ai choisi de ne pas avoir une famille normale. Ma famille, c'est toutes ces marionnettes. J'ai une famille constituée de marionnettes.
C'est l'artiste italien Maurizio Cattelan qu'on entend dans Stupéfiant en 2019 sur France 2. Emmanuel Perrotin, il fait partie de votre écurie. Vous l'exposez d'ailleurs hors les murs en ce moment sur une idée de Nicolas Bourriaud au Muséo Maxi à Rome. Et c'est jusqu'au 1er mars prochain. Est-ce qu'on pourrait parler justement des lieux où vous avez dressé vos galeries ? Parce que je crois que l'architecture est importante. Vous êtes présent à Paris, à New York, à Los Angeles, à Londres, Dubaï, Shanghai, Tokyo. Miami a fermé, Hong Kong va déménager. Séoul ?
Oui, Séoul, Dubaï, Londres.
J'ai l'air beaucoup plus étonné que vous, mais...
Non, mais ça s'est fait progressivement. Miami est fermé parce que c'est la première galerie que j'ai ouverte à l'étranger. Et les garden parties qu'on organisait étaient fantastiques, mais le reste du mois, il n'y avait pas grand monde. C'était très bien fiscalement, c'était très bien pour avoir des œuvres à vendre dans les foires. Mais quand même, une fois que j'avais montré la plupart de mes artistes, je trouvais que c'était injuste de leur faire refaire des expos dans un endroit qui était si peu visité. J'aime bien que les galeries soient visitées et qu'il y ait vraiment du public qui vienne. Et donc, on a fermé Miami pour ouvrir Hong Kong et très rapidement après New York.
Nous, les artistes, On a une vie quand même très luxueuse, qui peut être parfois compliquée et fatigante, mais il y a un côté où on est en constant contact avec notre être intérieur, puisque c'est notre matière première pour le travail, quelle que soit la forme, que ce soit la peinture, la musique, l'écriture de chansons ou de livres. Et donc, en fait, on passe notre temps à faire le point, finalement, à se demander comment on va et à pas perdre de vue, justement, notre cap. Je pense que le tableau, il a à nous apprendre sur nous-mêmes, parce que finalement, chaque spectateur, il va lire quelque chose de différent. Donc c'est vrai que moi, en tant que peintre, par exemple, quand il y a des vernissages, il y a des quelques rares moments où je rencontre un public. La plupart des gens, ils ont envie de me parler d'eux, de leur propre expérience, finalement. Moi, j'ai pas beaucoup de place pour parler, moi, le soir du vernissage. J'ai compris maintenant qu'il fallait juste se tenir debout, poliment, et recevoir la parole. Et c'est intéressant. Et ce que je me rends compte, c'est que chaque personne va être convaincue de savoir qu'est-ce qu'il y a dans mon tableau, mais ce que ça raconte beaucoup, c'est que ça raconte beaucoup d'eux-mêmes. Donc le tableau nous regarde et nous renvoie une image de nous-mêmes.
L'artiste peintre Claire Tabouret, dans l'émission en 2024, elle expose en ce moment au Grand Palais. Elle fait partie de votre galerie, Emmanuel Perrotin. Jean-Michel Autonel était récemment dans tous les lieux emblématiques d'Avignon. J.R. était à Montpellier. Jean-Marie Apriou sera bientôt exposé hors les murs. Comment ça se passe quand on prête un artiste à une autre institution ?
Alors d'abord, on n'a pas la prétention que ce soit nous qui les prêtons. Hein. Les artistes sont contactés
j'ai dit prêter avec des guillemets.
Oui, ils sont invités à produire, là en l'occurrence, des expositions incroyables dans tous ces endroits. Jean-Michel Autonel, c'était une production très importante. C'était 8 musées et 2 sites, comme le Pont d'Avignon.
On l'avait reçu pour ça.
Voilà, c'est une exposition incroyable.
Vous allez tout
JR,
voir
il est... Non, je ne peux pas aller partout. Alors, par exemple, quelqu'un comme JR, lui ne va pas partout, puisqu'il y a des projets qui sont produits par d'autres. Mais bon, il est déjà presque partout, ce qui est énorme. Non, c'est évidemment un plaisir énorme d'avoir ces artistes qui sont invités partout dans le monde à faire des expositions. C'est évidemment ça la vraie consécration, c'est d'être invité par des institutions et que le travail voyage au-delà des galeries. Et on n'est pas du tout en compétition avec ça, on est vraiment des partenaires pour ça et on y prend beaucoup de plaisir.
Il pleut à Giglio, vieille commune ennuyée de la côte toscane. Triple, triple A idiot, il nous faut oublier comme des points Strauss-Kahn. Voilà ce que titre à la capitale. Les journaux se vendent, dis-là, d'une écriture accidentée comme les routes paysages où le temps se dilate, où le temps se dilate. Il pleut à Giglio, vendredi 13, à bord du Côte Concorde, l'orgueilleux capitaine tarde à lancer les feux de détresse, à lancer les feux. Si près de la lagune a tangué le navire, l'homme amusé depuis la dune voit le ferry mourir. Si près de la lagune a tangué le navire, l'homme amusé depuis la dune voit le ferry mourir. Du ciel tombe des cordes, faut-il y grimper ou s'y pendre? Sur le pont du Côte Concorde, 5 étoiles dans la nuit sont mortes. Du ciel tombe des cordes, faut-il y grimper ou s'y pendre? Sur le pont du Côte Concorde, 5 étoiles dans la nuit sont mortes.
C'est votre choix musical qu'on vient d'entendre, Emmanuel Perrotin, Côté Concorde de Feu Chatterton.
Eh oui, Feu Chatterton, c'est un groupe extraordinaire, groupe français, très poétique. Arthur Touboul, qui fait de la poésie automatique, qui est capable d'écrire devant vous un poème pour vous. Il fait des performances comme ça dans les galeries. Tout le groupe est fantastique. J'ai eu la chance qu'ils me fassent un concert pour mes 50 ans. C'est un peu la honte. Ça donne l'impression qu'ils font les anniversaires, mais bon, c'était un peu particulier. Et honnêtement, cette chanson est magnifique. C'est une chanson du premier album. C'est toujours dur de devoir choisir une seule chanson, parce qu'on a l'impression tout d'un coup qu'on va être réduit seulement à ça.
Mais non.
Mais j'ai évidemment un lien avec beaucoup de musiciens. J'adore la musique. Ils nous font un plaisir incroyable. Je pense qu'on est, on n'est pas suffisamment reconnaissant de tous ces artistes qui nous offrent quand même, pour une somme, maintenant c'est même un abonnement mensuel, ils nous offrent quand même des grands moments dans notre vie. C'est sûr qu'eux, par contre, ils sont applaudis. Nous, dans le milieu de l'art, on n'est pas applaudis. Ils ont un lien avec le public direct, comme ça, une communion. Et si vous n'avez pas vu un concert de Feu Chatterton, il faut foncer, parce que c'est extraordinaire.
Morceau Roche de Sébastien Tellier, auquel vous avez donné une carte blanche récemment dans un de vos lieux, Emmanuel Perrotin. Vous avez aussi collaboré avec Pharrell Williams, mais vous le connaissiez depuis longtemps.
Oui, bien sûr.
Vous voulez dire un mot de Sébastien Tellier ou de Pharrell Williams ?
Alors, Tellier, j'ai toujours été un énorme fan. Je l'adore. On avait déjà fait le lancement d'un autre album qui était Pépito Bleu aussi. Et Sébastien, il a dû faire 3 concerts, dont un concert magique dans le jardin de la galerie de Miami, qui était vraiment incroyable. Et c'est le Serge Gainsbourg contemporain. Il est vraiment formidable. Oui, l'activité de concert, c'est quelque chose qui m'anime énormément, j'aime beaucoup. C'est très dur en période de difficulté comme en ce moment de faire le choix d'organiser des concerts alors que c'est pas si facile que ça. Et ça, c'est une grosse déception parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire.
Je me pose une question depuis le début de cette émission, Emmanuel Perrotin. Et d'ailleurs, vous y avez fait allusion au tout début de l'entretien. Comment garder un œil neuf ? Est-ce que vous arrivez encore à être surpris ?
Alors, moi, j'y ai trouvé une réponse très particulière, puisque la programmation de la galerie est faite collectivement maintenant, avec les assistants de la galerie qui peuvent proposer. On a un petit système de vote et de commentaires. Parce que le problème, quand on demande à d'autres de proposer, c'est que la première personne qui s'exprime très violemment va influencer tout le monde. Donc, on l'a fait de façon informatique au départ, et puis après, on a des réunions. Et donc, ça me permet de garder la galerie un peu plus jeune, parce que un certain nombre de mes assistants qui vont voir des expositions ailleurs, on garde un œil plus affûté peut-être que le mien. Moi, j'ai rarement maintenant des moments d'épiphanie devant un artiste. Ça m'arrive encore. Je fais la preuve d'ailleurs de temps en temps que j'avais raison, que ceux-là ont plus de succès que d'autres. Mais je suis très fier d'avoir créé un monstre, que cette galerie puisse vivre sans moi, puisse vivre collectivement. Et je n'ai aucune envie d'être le porte-drapeau de tout, des meilleures ventes, des meilleurs choix. Et comme ça rend aussi tous mes collaborateurs plus investis dans la galerie. Ils ne sont pas... De la même façon que eux n'aimaient pas forcément au départ certains artistes que j'ai proposés, il m'est arrivé que certains artistes proposés ne me touchent pas forcément au départ, mais à leur contact, au contact de leur travail, on finit par comprendre ce qui avait animé ce choix.
On arrive à la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a quelque chose, n'importe quoi, que vous aimeriez faire découvrir aux auditeurs ? Un livre, un film que vous aimez, de n'importe quelle époque ? Alors, artiste que vous ne représentez pas ?
Je vais enfoncer une porte ouverte.
Allez-y.
Il y a un auteur dont j'adore, parce que je lis en ce moment tous ses livres.
Shakespeare.
Et pas du tout, qui est David Fonkinos. J'adore son univers, j'adore tous ses livres. C'est incroyable le nombre de parallèles que je peux voir avec ma propre vie, son imaginaire. Il a écrit énormément de livres. Et pour tous ceux qui n'ont pas forcément de facilité pour lire, c'est vraiment une porte ouverte vers la littérature qui est très très agréable. Je vous conseille d'essayer.
Merci beaucoup Emmanuel Perrotin.
Mais merci beaucoup.
Les gravures de l'artiste américaine Katia Saint-Hilaire sont à découvrir dans votre galerie rue Turenne à Paris pendant un bon moment et il y a énormément d'actualités dans toutes vos galeries. Allez voir, chers auditeurs, sur le site de la galerie Perrotin. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Franck Olivard, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin, à la technique Guillaume Roux.